Vous êtes ici à Valenciennes, aussi appelée l'Athènes du Nord. Dans cette ville, le théâtre occupe depuis des siècles une place singulière, à seulement deux pas de la Belgique. Après plusieurs vies, il est aujourd'hui accueilli dans un imposant bâtiment rouge et noir, le Phénix. Labellisé scène nationale et pôle international, le Phénix propose une programmation pluridisciplinaire, tout feu, tout flamme, et soutient la création contemporaine. Découvrez sans tarder ce qui vous attend ce mois-ci et quelles œuvres vous provoqueront des étincelles.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première édition de la nouvelle émission du Phénix sur la radio Ramdam, la radio étudiante, voilà, qui a proposé au Phénix une invitation mensuelle à venir parler du théâtre, de sa programmation. Alors moi je suis Tanguy, je travaille à la communication et pour ce premier numéro je suis entouré de Noémie aux relations publiques. Bonjour Noémie.
Bonjour Tanguy.
Et de Roméo qui est aussi à la communication. Bonjour Roméo.
Bonjour.
Alors, on s'est dit qu'on a invité Roméo, parce que Roméo, il est là à double titre. Ce qu'en plus d'être quelqu'un de super, c'est quelqu'un qui est étudiant. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux qu'un étudiant pour parler aux étudiants du Phénix. Alors, on est où est-ce qu'on est, Noémie?
Alors, à l'heure actuelle, nous, on est dans la régie du Grand Théâtre du Phénix. Donc, on est vraiment en haut des balcons et on voit la scène.
Et qu'est-ce qu'on voit sur cette scène, Roméo?
On voit une lumière qui éclaire le Grand Théâtre.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, il me semble que ça s'appelle la servante.
Tout à fait. Et est-ce que vous savez ce que c'est la servante?
Pas du tout.
Tu vas nous le dire?
Ouais, je vais vous le dire. Alors, la servante, c'est une lumière qu'on laisse toujours allumée dans un théâtre, dans tous les théâtres, hein, pas qu'au Phénix, et qui sert à protéger le théâtre contre les mauvais esprits et à préserver l'âme du théâtre.
C'est-à-dire qu'elle est allumée en permanence?
Elle est allumée dès que toutes les autres lumières sont éteintes. Il faut toujours qu'une lumière reste allumée dans un théâtre.
Et donc, elle est allumée depuis, si je dis pas de bêtises, 1998.
C'est ça, depuis la construction du théâtre du Phénix.
Incroyable. Ok, il y a des... on commence avec des informations pas anodines. Du coup, on va passer une heure, on va parler de la programmation à venir sur ce mois de janvier 2026. Ce qui me fait dire, par ailleurs, que nous aurions pu commencer par vous souhaiter la bonne année. On va commencer ce mois de janvier par une chronique. Roméo, qui est dans les équipes depuis un an, tu nous as proposé de nous parler un peu de ton étonnement par rapport au Phénix. C'est à toi, Roméo.
Alors exactement, Tanguy. Moi, c'est Roméo. J'ai 20 ans, je suis étudiant en journalisme et en alternance à la com audiovisuelle du Phénix depuis un an et demi. On m'a demandé de faire une chronique sur le théâtre et pour être transparent, avant d'arriver ici, le théâtre c'était un monde que je connaissais vraiment mal. Un univers qui me paraissait un peu lointain, un peu codé, un peu spécial et surtout très différent de ma manière normale de consommer les images. Parce que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai grandi avec Netflix, YouTube, le streaming, TikTok, les scrolls infinis, des épisodes de 20 minutes, des pauses quand je veux, des algorithmes qui calculent mes envies mieux que moi-même, en fait le confort total. Et dans ce paysage-là, le théâtre ressemblait franchement à un sport d'endurance. Et puis un jour, j'ai accepté d'aller voir Madame Bovary de Hugo Malon, 3h40. Je le redis parce que ça mérite d'être souligné, mais 3h40... Je pense que même Tanguy, quand il a vu ça, a dû halluciner. Quand j'ai vu la durée, j'ai eu un petit vertige. J'ai jamais regardé un film aussi long. Même les plus gros blockbusters qui explosent dans tous les sens s'arrêtent avant ça. J'ai même vérifié si c'était une erreur d'impression. J'ai demandé à ma collègue, Laura, et non, c'était bien ça, avec un entracte. Ce qui, pour être honnête, m'a rassuré. Je me suis dit, au moins, j'aurai le droit d'aller respirer. Je suis alors rentré dans la salle en me préparant mentalement à voir le temps passer très lentement. Et finalement, bah rien de tout ça. Les minutes sont devenues des scènes, les scènes sont devenues des moments. Et ces moments sont passés à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. Il y a des passages drôles, des détails de mise en scène que je n'avais jamais aperçus ailleurs. Des silences tellement denses qu'on aurait pu les attraper à la main. Et des instants où tout le monde respirait au même rythme. Cette sensation-là, je l'avais vraiment jamais vécue ailleurs. Sur une plateforme, tout est optimisé. La musique guide l'émotion, le montage impose le rythme, l'image te prend la main, et c'est fluide, c'est efficace, parfaitement rodé, et ça marche. Mais au théâtre, tout repose sur l'instant. Pas de pause, Pas de « je reviens », pas de multitasking. Les acteurs sont vivants, la salle réagit et il peut se passer quelque chose à tout moment. C'est de l'humain à l'état brut. Et c'est là que j'ai compris un truc que j'avais jamais vraiment réalisé. Le théâtre, c'est pas un loisir moderne, c'est un truc intemporel. Il y a 2000 ans, des gens se rassemblaient déjà pour regarder d'autres humains raconter des histoires sur scène. Ils riaient, ils pleuraient, ils se disputaient à la sortie et nous, en 2025, on fait exactement la même chose. Le même geste, la même attente, la même attention collective, avec juste une meilleure sono et des fauteuils plus moelleux. Il y a quelque chose d'assez vertigineux dans cette idée. On vit dans un monde où tout change, tout s'accélère, tout se met à jour. Et pourtant, on continue à se retrouver dans une salle sombre pour partager un moment qui aurait pu exister à l'époque de l'Antiquité. Presque rien n'a cette capacité-là. Traverser les siècles sans perdre de sens. Je pense que le théâtre, c'est vraiment le seul à pouvoir faire ça. Et quand on y pense, c'est pas rien. Se retrouver en tant que gamin de 20 ans, avec un téléphone dans la poche et un cerveau habitué au scroll automatique, dans un lieu où l'on n'a pas d'autre choix que d'être présent, ça crée un choc plutôt agréable en fait. Je ne vais pas dire que je suis devenu un expert du jour au lendemain du théâtre, ni que je vais courir vers tous les spectacles de 4 heures que je vois passer, ce serait mentir, mais maintenant que je sais ça, ce que j'ai vécu pendant Madame Bovary, je ne l'aurais jamais vécu sur un écran, parce que c'est une expérience qui t'arrive qu'en vrai, avec des gens autour, dans un moment qui ne ressemble à aucun autre. Et pour quelqu'un qui pensait qu'un spectacle de 3h40 était une expérience de survie, je dois reconnaître que j'ai pris une claque, et une bonne, une qui m'a fait fermer Netflix pendant quelques jours, et ça, c'était probablement la performance la plus impressionnante du spectacle.
Waouh, merci Roméo pour cette chronique qui est quand même plutôt touchante.
Très touchante.
Bien, merci.
C'est une allégorie assez forte en tout cas entre qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui de se dire qu'on va préférer regarder une série chez soi ou aller au théâtre. Bon, et effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'opposer les deux, mais en tout cas, on est sur une approche différente.
Ah, bien sûr, mais je pense que la grande différence, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre et je pense que ça leur fait peur en fait. C'est ce temps à passer devant des acteurs physiques. C'est ça la grande différence entre la télé et le théâtre.
Et oui. Puisqu'on parle de théâtre, on va aller dans le cœur du sujet et on va se pencher sur le premier spectacle du mois de janvier 2026.
Fille nous raconte comment, en étant exclue du monde par son père, une enfant se retrouve éloignée de son humanité. Fille vit avec son père dans une ferme isolée. Fille, c'est son nom et c'est son histoire. Elle ne sait rien de ce qui se passe au bout du sentier, de l'autre côté, chez les bons qu'à prendre. Elle écoute les mots de son père, c'est lui qui sait. Et il cultive la terre, s'occupe des bêtes. Fille devient une jeune femme et père quitte la ferme. Et un jour, fille tue. Sans savoir qu'elle commet un crime, et le monde s'affole. On s'adresse ici directement aux spectateurs pour questionner ce qui fait un monstre. Peut-on juger sans comprendre ? Quelle est la part de responsabilité collective par rapport à la responsabilité individuelle ? Les compagnies Lolium et Filigrane 111 proposent un spectacle poignant sur la culpabilité. Mais laquelle ? Celle de fille ou la nôtre ?
Waouh, ça plante le décor. Donc ce texte effectivement qui est poignant et assez dur pour parler de ce spectacle Fille. Est-ce que tu saurais nous dire déjà pourquoi les compagnies elles ont choisi d'aborder ce sujet?
Alors du coup, il y a donc deux compagnies qui font ce spectacle-là. À chaque fois, donc il y a la compagnie Lolium, ils sont deux, Marion Zaboïdzeff et Henri Bott, et la compagnie Filigrane 111, Céline et Cyril Brice. Et ils ont lu le texte Fille. Et pour eux, ça a été un uppercut, vraiment un grand coup porté à leur émotion. Ils ont été impressionnés par la puissance du choc, justement, qui se dégage de la pièce. Parce que c'est une pièce qui joue sur le choc. Et à quel point ça, c'est puissant. Et ça a été pour eux une évidence complète de se dire, il faut qu'on mette en scène ce texte.
Ok, mais du coup, c'est un texte qui s'inspire de faits réels ou c'est une fiction ?
Alors, ça s'inspire pas de faits réels directement. Alors, il faut savoir que du coup, ce texte, à l'origine, il a été écrit par Matt Hartley, qui est un dramaturge anglais, à qui on a lancé un défi, celui d'écrire une pièce qui saurait amener un public à comprendre et à pardonner les raisons qui poussent un personnage à commettre tel ou tel acte. Voilà, on ne lui a pas donné de précision. Et comme inspiration, on lui a donné une manchette de journal qui titrait « Une voleuse de fœtus tue un bébé ».
Ok. Voilà,
il part de ça.
Ouais.
Alors, fille, dans le spectacle, c'est pas l'histoire de cette voleuse de fœtus, mais c'est un fait divers qui est venu nourrir le travail de Matt Hartley. Et rapidement, il a imaginé donc un personnage et une langue, parce que la place de la langue dans ce spectacle est vraiment très, très importante. Et il voulait créer un monde autre, un peu sauvage, un peu rural, où justement le langage, c'est une arme de domination. Et donc, il voulait vraiment questionner toute cette chose, la notion de l'acquis, comment le langage il aide à faire construire une identité, une personne. Et il voulait aussi questionner la nécessité de protéger et plus largement la définition du mal, en fait. Ça interroge tout ça.
Ok, mais alors du coup, est-ce que c'est une pièce accessible ?
Oui, alors je sais que le sujet peut faire peur, hein. C'est un peu paraître un peu lourd comme ça. Mais justement, la mise en scène est suffisamment bien faite pour que ça reste très très accessible. Déjà, ça se place quand même dans un univers fictionnel, on est dans la fable, hein, donc on s'éloigne un peu de la réalité. C'est une pièce qui se dessine en deux parties. Dans la première, on découvre vraiment le quotidien de fille à la ferme. On la voit grandir, on la voit dans son environnement, jusqu'au drame, jusqu'au meurtre dont je vous parlais en introduction. Ouais. Et dans la seconde partie, fille, elle est sortie de la ferme, elle est enfermée, interrogée, analysée. On essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où la société vient porter un regard, un jugement sur l'acte. Et progressivement, on va réussir à créer un dialogue avec fille et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, ça pose plein de questions qui sont super actuelles. Et en ça, pour moi, c'est assez accessible parce qu'on peut tous trouver des points d'accroche. C'est est-ce qu'on doit condamner cet enfant? Comment on réagit face à l'abominable? Voilà, qui est responsable? C'est plein de choses comme ça.
Toi, c'est une pièce que tu as déjà vue.
Oui, c'est une pièce que j'ai déjà vue même plusieurs fois. C'est une pièce qu'on a déjà accueillie au Phoenix il y a 2 ans.
Ok, et du coup, est-ce que quand tu dis qu'on peut le faire des rapprochements avec des faits dans la société d'aujourd'hui, toi, t'en aurais un qui te vient ou c'est un peu trop complexe?
Je ne sais pas si j'aurais un fait précis, mais en tout cas, on aborde la question aussi de la justice, du traitement aussi de la justice et des victimes, parce qu'on va voir que fille, elle ne va pas être forcément toujours très très bien traitée. Et nous, on a déjà le contexte de c'est quoi sa vie à cette jeune fille. Donc, on nous place aussi dans un endroit de compassion. Et la compagnie s'intéresse beaucoup aussi à la société, aux médias, aux réseaux et aux jugements très hâtifs qu'on peut porter sur les choses. D'ailleurs, on entend des voix dans le spectacle de médias et ça vient un peu questionner. Alors aujourd'hui, on parle des fois de tribunal populaire ou de tribunal des réseaux sociaux, etc.
Donc en fait, ça me fait penser en tout cas dans ce que tu dis à effectivement quand il y a un fait divers qui peut être assez saisissant dans la presse, on va avoir tendance à avoir du coup des tribunaux médiatiques, des commentateurs sur des plateaux de télé, des chroniqueurs qui vont faire justice eux-mêmes sur la base de phrases fortes et autres sans vraiment avoir connaissance des faits juridiques.
Tout à fait. Et c'est vraiment un élément qui a intéressé les deux compagnies. Mmh. Ils le disent d'ailleurs. Alors moi, j'ai lu aussi leur note d'intention. Vous savez, c'est l'endroit où les compagnies peuvent expliquer pourquoi ils font leur spectacle. Et je vous cite parce que je trouve que la phrase est très bien. « Fille interroge indubitablement le monde qui va trop vite, qui entend tout mais n'écoute pas, voit tout mais ne regarde rien. » Et je trouve que c'est un assez bon résumé de ce phénomène, en fait, de vouloir juger tellement vite sans prendre en compte tout le contexte.
Et du coup, est-ce que c'est un sujet pour les adultes ou les plus jeunes peuvent venir?
Alors nous, on le conseille ce spectacle plutôt dès 14 ans, parce que c'est quand même un sujet qui est un peu difficile, donc on va pas non plus... Mais à partir de 14 ans, on a des représentations scolaires, où on fait venir aussi des collégiens, des lycéens. C'est un spectacle qui est adapté pour ça. Ça permet d'ouvrir aussi plein de sujets, justement sur le langage, sur le rapport aux autres.
Et du coup, comment est-ce qu'on met en scène une pièce comme ça?
Alors là, vous verrez qu'il y aura 4 comédiens au plateau, donc les 4 comédiens que je vous ai cités des compagnies, qui s'emparent des différents rôles et aussi de la narration de la pièce. Donc il y a parfois des moments de narration. Et au-delà du texte, la scénographie, elle est très importante. Donc, je vous disais, il y a deux parties. Dans la première partie, il s'amuse avec un grand écran de tissu, comme une grande toile peinte qui représente la campagne où vit Fille et son père. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une photographie, en fait, de la campagne, mais c'est réalisé en peinture. Et au fur et à mesure que la fable s'installe, cette peinture, ce paysage qui était très réaliste au départ, va beaucoup évoluer, va se déliter, va se transformer. Et ça vient aussi accentuer ce côté un peu fabuleux de cette histoire. Et après, en seconde partie, le décor change complètement. On est dans un univers très blanc, très froid, parce que la fille est sortie de la ferme, sortie de chez elle, pour se retrouver dans la société.
Ok. Et alors, du coup, au début de la présentation de ce spectacle, tu as lu par-dessus une musique The Proposition de Nick Cave et Warren Ellis. Roméo, est-ce que tu connais Nick Cave ?
Pas du tout. Vraiment désolé.
Franchement, Nick Cave, quand même, représentant historique du mouvement, un des représentants historiques du mouvement punk des années 80, qui aujourd'hui est un chanteur de je sais pas si on va appeler ça de la pop, mais en tout cas un chanteur emblématique de la chanson anglaise. J'ai dit britannique, c'est une erreur, parce qu'il est australien, si je dis pas de bêtises.
Peut-être bien. Et si je ne dis pas de bêtises, vous connaissez sans doute la musique du générique de Peaky Blinders.
Ah oui.
Ah ouais, c'est lui.
Ok.
Red Right Hand. Yes. Et du coup, est-ce que c'est un morceau qu'on va retrouver du coup dans, c'est la BO de la pièce de théâtre?
Alors, c'est pas directement un morceau que vous entendrez dans la pièce, parce que ils ont fait appel à un compositeur pour la BO de la pièce, qui s'appelle Esteban Fernandez, qui est d'ailleurs un compositeur et musicien de Valenciennes. Il faut savoir que la compagnie L'Olium est également de Valenciennes.
Donc on est sur un spectacle en circuit court, là.
Exactement. Okay. On peut difficilement faire plus court. Et par contre, la musique de Nick Cave, ça a été une source d'inspiration pour Esteban dans le travail qui a été réalisé autour de ce spectacle.
Ouais.
Donc c'est pareil, comme il y a deux parties, il y a deux ambiances musicales un peu différentes. Dans la première, on entend pas mal d'instruments à cordes, d'instruments à cordes aussi un peu graves. Et donc il a plein de sources d'inspiration. Alors je peux vous en citer quelques-unes. Mmh. Il y avait la bande originale de A Ghost Story de Daniel Hart. Okay. C'est un film de 2017.
Tu l'as vu, Roméo ?
Non.
Moi non plus.
Moi non plus.
Ah, super.
Il s'inspire aussi de The Proposition et de 12 conversations avec Thelo Heinzmann de Johan Johannesson. Alors ça, c'est un peu plus pointu, mais c'est parce que c'est sur la composition des cordes. Donc c'est ça qui l'intéressait particulièrement.
Ok, merci Noémie, ça donne vraiment envie. Donc pour rappeler, c'est le spectacle Fille qu'on peut retrouver au Phoenix à Valenciennes du 14 au 16 janvier 2026, en soirée, avec certains en scolaire en journée. Le spectacle dure 1h45, il est accessible à partir de 14 ans, mais il est aussi bien pour les adolescents que pour les adultes. Vraiment une pièce à ne pas manquer, qu'on vous invite à retrouver. Merci encore Noémie, et on va passer au prochain spectacle.
Tout à fait.
Le phénix.
I can't follow you.
On a longtemps cru que l'absence était blanche, qu'elle ressemblait à la banquise, au tas des spectres, à la lumière qui déferle quand la vie se termine. C'est ainsi qu'on a imaginé tout ce qu'on ne connaissait pas et tout ce qui nous manquait. Les disparus.
Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Noémie ?
Alors, ce qu'on entend, c'est un extrait de Imaka, ici peut-être.
Imaka. Alors,
tout à fait. Imaka, ici peut-être, de Mathurin Bolz. C'est un spectacle de cirque qui nous emmène en voyage dans le Grand Nord, donc vraiment dans les paysages blancs de l'Arctique. Et ça se construit comme un poème visuel, sonore et aérien, parce que je vous disais, c'est du cirque, donc on va avoir des acrobates. Vous en retrouverez 8 sur scène, qui apportent de grands espaces verticaux, une immense paroi blanche évoque l'iceberg et occupe tout le centre du plateau.
Ok, donc quand on dit poétique aérien, évidemment, Zoé fait son entrée dans les studios. Alors Zoé qu'on laisse le temps de s'installer tranquillement, mais Zoé qui nous rejoint du coup et qui est à la production du Phoenix. Voilà, Zoé, je te laisse attraper ton micro et nous dire un petit bonjour.
Bonjour à tous.
Ok, et alors du coup, on revient dans le Grand Nord, c'est ça?
C'est ça.
Imaka, qu'est-ce que ça veut dire, Noémie?
Tu sais, toi?
J'en ai aucune idée. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être français. Hein.
Alors, effectivement, c'est pas français. Imaka, c'est de l'Inuktitut. Alors, je ne sais pas si je le dis correctement.
Ça vient d'où, le Inuktitut, Zoé?
J'ai pas bien fait mes devoirs. J'ai fait de recherche. Okay.
C'est une langue inuit. Et du coup, Imaka, ça veut dire peut-être. Okay. Et dans ce spectacle, justement, Mathieu Rimbolz, il aime explorer la poésie de l'incertitude, donc de ce peut-être, de ce qu'on ne sait pas réellement, d'une hypothèse dont on n'a pas la vérification. Et ça fait écho à la fois au paysage, parce que on est dans la banquise, là. Et la banquise, c'est en permanente évolution, d'autant plus aujourd'hui avec les changements climatiques qu'on connaît. Donc, c'est un sol qui est précaire, qui a plein de propriétés, qui peut être parfois très lisse ou chaotique, et chaotique aussi au sens propre du terme, donc c'est-à-dire les chaos avec des gouffres et des failles dans la glace. Donc voilà, ça vient jouer sur ce peut-être-là. Et ça joue aussi sur la question des traces qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas et des mystères à élucider. C'est aussi ce peut-être-là.
Ok, sacré décor. Et du coup, pourquoi justement ça se passe dans le Grand Nord pour un spectacle comme ça?
Alors, le choix du Grand Nord, ça vient d'une rencontre plutôt de retrouvailles entre Mathieu Rimbolz, qui donc signe la mise en scène de ce spectacle, et Philippe Le Goff, qui est un compositeur-explorateur, qui est passionné par les peuples et les paysages du Grand Nord, et qui signe du coup la composition sonore du spectacle. Et tous les deux, ils ont décidé en 2022 d'imaginer un voyage d'imprégnation dans les paysages arctiques, c'est-à-dire un voyage dans lequel ils pourraient récolter des sons, des ambiances, des éléments naturels, des voix, des animaux, aussi du matériel donc sonore, mais aussi photographique, filmique, qui peuvent être utilisés dans Imaka. Donc Imaka, c'est un peu une forme de restitution poétique de ce voyage, si on veut, qui mêle la réalité de ce qu'ils ont récolté à aussi un peu de fiction, d'imaginaire, de ressenti. Voilà, ils ont envie de jouer là-dessus. Ils ont envie de jouer sur le temps aussi, parce que l'Arctique, c'est un désert. Et c'est aussi un temps qui est complètement différent. C'est du silence, la solitude, c'est le crissement de nos pas sur la glace, sur la neige.
Ah, ça, on va retrouver tout ça pendant le spectacle.
Tout à fait, c'est une ambiance sonore. Ouais, ambiance sonore qu'on retrouve pendant le spectacle.
T'es prêt, Roméo, j'espère?
Ça donne envie.
Après voir sa doudoune, du coup.
Bon, quand même, il y aura du chauffage. On ne va pas pousser l'immersion jusque-là.
Et on a entendu plusieurs fois un nom qui est celui de Mathieu Rimbolz. C'est un nom qui est connu, non?
Oui, c'est un des grands noms du cirque contemporain. D'ailleurs, sa spécialité à Mathieu, c'est le trampoline.
Ah, ah super. On aura un trampoline, Zoé, sur le spectacle?
Plusieurs même, je pense.
Ouais. Wow,
je pense qu'on va retrouver du trampoline. Et donc, il faut savoir qu'il a fondé une compagnie en 2001 qui s'appelle Les Mains, Les Pieds et la Tête aussi, avec laquelle il a déjà créé au moins 9 spectacles, donc dont Imaka.
Ouais.
Il a aussi la direction artistique d'un festival qui s'appelle Utopiste, qui est à Lyon.
Sympa.
Voilà. Il a envie de monter une école aussi autour du cirque, enfin un lieu en tout cas où
J'ai entendu parler, qu'effectivement, ils ont obtenu en octobre la labellisation Pôle National du Cirque
et
qu'effectivement c'est une compagnie qui du coup s'inscrit même dans une démarche de transmission et de s'implanter au niveau territorial en tout cas.
Exactement, et ils ont envie de permettre aussi à de jeunes artistes de pouvoir avoir un lieu où ils peuvent apprendre, s'entraîner, faire de la recherche, partager, donc c'est vraiment dans cette dynamique là qu'ils s'inscrivent.
Ok, et du coup tu nous as parlé de cirque contemporain. Parce qu'il y a plusieurs cirques.
Oui, en fait, il y a plusieurs cirques. Le cirque contemporain, il vient se construire un peu en opposition au cirque classique. Vous savez, c'est celui qu'on retrouve sous les chapiteaux, de manière générale. La différence, en fait, c'est que le cirque contemporain, ça mêle souvent plusieurs genres artistiques. Donc, on vient emprunter au théâtre, à la danse ou à la musique. Et on va pas juste présenter une succession de numéros, comme ça peut être le cas dans les cirques sous chapiteaux. On vient plutôt essayer de produire un spectacle complet avec un fil narratif, un lien en tout cas entre tout ça. On n'a pas d'animaux dans le cirque contemporain, de manière générale. Okay. Et c'est surtout en fait les différentes disciplines de l'acrobatie qu'on va retrouver.
Donc en fait, c'est un peu comme si je vais voir Un spectacle de danse, de théâtre et d'acrobatie.
C'est un peu ça. Ça mêle différentes choses. Alors, tous les spectacles ne mêlent pas toutes les disciplines.
Ouais.
Mais par exemple, ici, on a tout un travail aussi sur le texte et la dramaturgie. Il faut savoir que, par exemple, là, Mathurin, quand il crée ce spectacle, il s'inspire d'un roman qui s'appelle Un monde sans rivage d'Hélène Gaudy. Ce roman, il raconte l'histoire de trois hommes qui sont partis en expédition polaire en 1897 en ballon et qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Et on retrouve des traces de cette expédition en 1930 sur l'île Blanche en Norvège. Et Hélène Gaudy, à partir des traces retrouvées, donc il y a des photos, il y a le journal de l'expédition, elle va essayer d'imaginer l'aventure de ces hommes.
Okay.
Et ça, on retrouve par exemple en fil narratif du spectacle d'Imaka. Donc ça vient un peu nourrir de manière un peu plus théâtrale le spectacle de cirque.
Alors du coup, et autour de cette table, on a une personne qui est particulièrement passionné de sport, Roméo. Tu devais donner une série d'arguments pour dire à un sportif que c'est un spectacle qui peut particulièrement lui parler, tu dirais quoi ?
Bah, que le cirque, c'est quand même aussi une discipline hyper exigeante physiquement.
Ouais.
Donc, ils vont pouvoir voir des numéros assez impressionnants. Donc là, je vous disais, il y a 8 acrobates au plateau et ils vont utiliser différents agrès de cirque. Alors, les agrès, vous savez, c'est les structures ou les matériels qu'ils utilisent. Donc, ça peut être le trampoline. On a dit tout à l'heure qu'il y en aurait quelques-uns. Ça peut être un trapèze, ça peut être un machinois. Les machinois, c'est les grands poteaux de métal qui sont fixés verticalement et autour desquels on peut faire des acrobaties, un tissu aérien et bien d'autres encore. En fait, il y en a plein des agrès de cirque. Et là, vous allez en retrouver bon nombre. Je vous dis pas forcément lesquels. Faut garder quelques surprises. Mais c'est des numéros qui sont hyper impressionnants, quoi.
Et il faut savoir que Imaka ici, peut-être, c'est l'un des spectacles que j'attends le plus de la saison. Parce que j'ai vu le teaser. Ça donne vraiment envie. Et là, en plus, avec ton discours, l'histoire que ça nous proposer, ça donne encore plus envie.
De partir en expansion dans le Grand Nord ?
Exactement. C'est incroyable.
Ouais, c'est quand même pas tous les jours que vous pouvez faire un voyage en Arctique depuis Valenciennes.
Et du coup, Zoé, c'est une grosse production, ça, de faire venir un groupe d'explorateurs du Grand Nord ?
Ça demande beaucoup de ski.
Ah ouais. Ok, bah merci beaucoup. Donc Imaka, est-ce que tu peux nous rappeler les dates, Noémie ?
Alors, c'est à découvrir les 22 et 23 janvier à 20h au Phénix, au Grand Théâtre. Voilà. C'est à partir de 10 ans, donc là vous pouvez venir aussi avec des enfants un peu plus jeunes, et ça dure 1h15.
Et si moi par exemple, je veux venir le 23 janvier et j'ai des enfants qui sont plus jeunes que 10 ans ?
Alors pas de problème, parce qu'on a une halte garderie. Alors il faut quand même qu'ils aient 3 ans minimum, mais on offre une halte garderie avec un partenaire qui s'appelle Baby Chou, et c'est gratuit. Et vous pouvez venir laisser vos enfants pendant toute la durée du spectacle.
Ah ouais, parfait.
Mieux qu'un babysitter en fait.
Ben oui, parce qu'en plus, c'est gratuit.
Trop bien.
Génial. Eh ben, merci beaucoup, Noémie. On va passer au spectacle suivant.
Le phénix.
Répondre au plus vite. Cette nouvelle politique sera celle de l'échange et non plus du clivage. Notre institution veut réaffirmer l'écoute et la confiance qu'elle donne à ses collaborateurs et collaboratrices.
Flash Info. Il y a quelques jours, un professeur armé a pris en otage sa classe dans un collège réputé difficile. Bon, la police est rapidement intervenue sur les lieux. Ce professeur enseignait depuis 20 ans dans ce collège. Depuis, les marches et les journées de manifestation s'enchaînent. Ce professeur est devenu un symbole de l'abandon politique des réseaux d'éducation prioritaire. Alors, la ministre de l'Éducation a été contrainte de réagir assez rapidement. On vient d'entendre un extrait de son discours. Et elle décide de lancer un grand diagnostic national de l'éducation prioritaire. C'est dans ce contexte que s'inscrit la pièce « Qu'il fait beau, cela vous suffit » de Mélanie Charvy et Émilie Duillet. On va découvrir le quotidien du collège Rosa Parks, qui est donc situé en zone d'éducation prioritaire, dans le cadre de ce grand diagnostic. Et on va y découvrir des histoires de Violette, qui est une CPE qui déboule avec plein de grands principes et une grande rigueur, et qui va très rapidement se heurter à la réalité du terrain. De Jean, qui est un prof de physique-chimie, qui craque, parce que c'est trop pour lui. de Julie, qui est une prof de français hyper dynamique et qui essaye de toujours inventer des nouvelles méthodes pour essayer de capter ses élèves, ou encore d'Alexander, qui lui est un adolescent décrocheur.
Waouh, alors je vais te laisser reprendre ta respiration, Noémie, mais merci pour cette intro. Mais ok, donc on changement d'ambiance. C'est vrai cette histoire de prise d'otage ? Enfin, est-ce que c'est une histoire vraie ?
Alors, c'est pas une histoire vraie, mais on pourrait presque y croire. Vous voyez, on n'est pas si éloigné de la réalité. C'est vraiment le prétexte au lancement de ce fameux faux grand diagnostic qui permet d'entrer dans ce quotidien. Par contre, même si cette histoire n'est pas vraie, le spectacle s'inspire de la réalité parce qu'il est le fruit d'un travail d'enquête et d'immersion qui a été mené par les deux metteuses en scène entre mars 2020 et juin 2021.
Et comment elles s'y sont prises, du coup, pour ce travail d'enquête?
Alors, elles ont fait un vrai travail de recherche scientifique. Elles ont travaillé avec le LEST, qui est un laboratoire de sociologie de l'université d'Aix-Marseille. Et donc, elles ont vraiment utilisé des méthodes de sociologie pour conduire des entretiens, faire des observations. Et donc, elles ont fait plus de 50 entretiens avec des personnes qui travaillent dans les réseaux d'éducation prioritaire. Et elles ont fait aussi des immersions libres au sein de deux collèges de REP. Et donc, elles ont pu observer des cours, aller dans la salle des profs, parler aux élèves, parler aux profs. Et donc, c'est avec toute cette récolte de témoignages qu'elles ont pu écrire leurs personnages et les situations dans lesquelles ils se trouvent.
Ok. Et du coup, selon toi, c'est quoi l'objectif de cette création pour les artistes?
Alors, pour avoir eu la chance d'un petit peu discuter avec ces deux metteuses en scène, d'avoir vu le spectacle aussi, elles ont vraiment envie d'amener le public à se questionner sur la reproduction des inégalités scolaires et sociales dans l'institution éducative. Elles viennent questionner, en fait, l'égalité des chances à l'école. Clairement, c'est vraiment la question qui a porté toute leur création. Et donc, elles ont envie de sensibiliser, en fait, à la réalité aussi du quotidien des élèves et des professeurs et de toutes les équipes éducatives en zone prioritaire. Des moyens qu'on leur alloue, de ce qui est possible de faire ou pas.
Ok. Et du coup, comment elles s'y prennent pour faire passer ces messages?
Alors, elles essayent de le faire en évitant d'être trop misérabiliste aussi, donc de ne pas jouer trop sur un côté pathos où tout est triste. Donc, elles vont jouer sur l'écriture en essayant d'être parfois très drôle, parfois réel. Donc, on va osciller du rire aux larmes assez rapidement. Et elles essayent aussi de jouer avec les différents niveaux de langue. On est sur des collégiens de zone d'éducation prioritaire qui parlent pas forcément toujours de manière très châtiée, dirons-nous. C'est complètement assumé. C'est aussi ça, la réalité. Et donc, ça vient mêler des moments de langue très orale, très familière, à des moments de langue beaucoup plus poétique aussi. Ça vient jouer avec les deux. Et elles jouent aussi avec les codes du cinéma. On parlait un petit peu tout à l'heure aussi de Netflix et de ciné. Là, elles s'inspirent de la technique du plan séquence. Par le biais d'un comédien qu'on va suivre d'une scène à l'autre, ou alors c'est le texte qui va permettre une continuité entre les scènes, tout en ayant envie de rappeler quand même au spectateur qu'il est au théâtre. Donc il y a quand même aussi plein de moments où on vient casser ce côté-là, les coulisses elles sont à vue, ils font les changements de décor à vue, voilà, il y a toute cette illusion théâtrale qui est bien présente.
Ok, et pourquoi ils choisissent du coup de traiter un tel sujet?
Alors en fait, Mélanie et Émilie, elles ont beaucoup travaillé auprès d'établissements scolaires, en classé du coup en éducation prioritaire. Déjà, je ne l'ai pas redit, hein, mais les établissements en éducation prioritaire, il y a une carte en France de ces zones. Ouais. C'est là où on estime qu'il va y avoir des élèves qui sont en plus grande difficulté ou en fragilité. Et donc, on va venir donner un peu plus de moyens à ces établissements et avec des règles aussi différentes pour essayer de venir contrebalancer en fait, ces situations qui peuvent être difficiles. Et donc, elles y ont rencontré beaucoup d'élèves qui avaient des parcours difficiles. Elles ont pu échanger avec les enseignants autour des difficultés qu'elles rencontrent. Et ça leur a donné envie, en fait, de creuser sur cette question et d'engager un travail qui permet aussi de continuer à travailler avec les élèves et les enseignants de ces zones-là.
Ok. Et du coup, et pourquoi ce titre « Qu'il fait beau, cela vous suffit » ?
Alors, c'est une phrase qui est extraite d'un poème d'Aragon du recueil Le Fou d'Elsa.
Peut-être que Roméo peut nous lire cet instant poésie.
Effectivement, je peux le lire. Alors, ça
vous connaît pas de tête?
Ah non, je ne connais pas de tête. Je l'ai pas appris à l'école primaire. Ne me regardez pas dedans. Qu'il fait beau, cela vous suffit. Je peux bien dire qu'il fait beau, même s'il pleut sur mon visage. Croire au soleil quand tombe l'eau.
Voilà, ça c'est un petit extrait du poème d'Aragon. Il est un petit peu plus long que ça, hein, mais j'ai été sympa, j'ai pas lu en entier. Bah, si vous êtes intégré, par contre, il sera lu dans son entièreté pendant la pièce. Donc, faut venir la voir.
Et j'ai cru, Il y a une dimension participative dans ce spectacle ?
Tout à fait. On travaille avec un établissement donc de Valenciennes, qui est le collège Joséphine Baker. Parce que je vous disais, les metteuses en scène, elles ont à cœur de continuer à travailler avec les élèves en collège de REP et REP+. Et donc, une semaine avant le spectacle, ces élèves de 4e, ils vont avoir des ateliers artistiques, donc avec l'équipe du spectacle, pour travailler et préparer leur intégration au plateau. C'est-à-dire qu'ils seront sur scène avec les comédiens professionnels et qui vont jouer le rôle d'élèves sur la scène directement. Et donc ça, vous pourrez les voir directement au Grand Théâtre sur les représentations du 30 janvier.
Ok, tu peux nous rappeler les dates, s'il te plaît ?
Ouais, donc il y aura deux représentations le 29 janvier à 14h30 et à 20h, et deux représentations le 30 janvier, pareil, 14h30 et 20h, et donc sur celle-ci, vous pourrez voir les collégiens sur scène.
Ok, mais alors si j'ai des enfants qui ont moins de 13 ans, Noémie, je fais comment ?
Alors toujours pareil, il y a une halte garderie proposée sur la représentation du vendredi 30 à 20h. Donc pareil, okay. Gratuit. Ce spectacle à partir de 13 ans, effectivement.
Et j'ai vu que du coup, il y a marqué sur le jeudi 29 janvier au soir, une rencontre après spectacle. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors la rencontre après spectacle, c'est un moment d'échange avec les comédiens, les metteurs en scène du spectacle, juste après. En fait, vous sortez pas de la salle, vous restez assis dans vos sièges et eux, après, les applaudissements reviennent. Et c'est un moment où vous pouvez leur poser vos questions, aussi juste leur faire vos retours si vous avez adoré le spectacle ou au contraire, s'il y a peut-être des choses... Vous avez des questionnements, des réserves, c'est le moment d'échanger avec ça, avec eux. Ça dure une vingtaine de minutes et c'est toujours précieux.
Merci Noémie.
De rien.
Le phénix.
Le phénix.
Le phénix. Le phénix. Le phénix.
Le phénix.
Le phénix.
Le phénix.
Alors, qu'est-ce qu'on entend, Noémie, au loin ?
Alors, vous entendez un extrait de la symphonie numéro 10 de Dimitri Shostakovitch.
Et pourquoi est-ce qu'on écoute ça, Noémie ?
Alors, parce qu'on aura la chance d'accueillir le concert Jeu d'amis de l'Orchestre National de Lille, dirigé par Joshua Wellerstein le 16 janvier. Et qu'au programme de ce concert, vous pourrez entendre cette 10e symphonie de Shostakovitch. Mais également une autre création, la Fiddle Fantasy de Noah Bendix-Balgley.
Noah comment ?
Bendix Balgley.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ces deux morceaux ? Donc là, on entend en arrière-plan donc la symphonie numéro 10. Et l'univers qu'on peut entendre, il est assez intense, voire peut-être sombre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors la dixième, c'est un peu un chef-d'œuvre qui a une architecture monumentale. Elle est composée par Shostakovitch en 1953, donc juste après la mort de Staline. Il faut savoir que ça a un effet assez libérateur sur le compositeur. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la vie de Shostakovitch, mais...
Ni de Staline.
Ni de Staline, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils ne s'entendaient pas très bien, les deux. Et que Staline, pendant toute la période où il était au pouvoir, il a imposé aussi une censure et des règles de composition très, très strictes. Et si on s'en écartait, on pouvait être arrêté. Shostakovitch, il a composé pas mal de choses pendant cette période qu'il a gardé complètement secret parce qu'il avait peur que ça ne passe pas à la censure. En parallèle, il en a aussi écrit qui ont eu un grand succès, donc il a un rapport un peu ambivalent à tout ça. Mais du coup, la symphonie numéro 10, il l'écrit au moment de la mort de Staline, où là, il est beaucoup plus libre de se libérer justement de ce style soviétique officiel.
Ok, et du coup, si c'est une symphonie, si je dis pas de bêtises, elle est donc composée de 4 mouvements.
Tout à fait. Elle est construite en 4 mouvements, ce qui est assez classique. Mais par contre, là où c'est moins classique, c'est que les proportions sont un peu bouleversées. Okay. On a entendu là un extrait du premier mouvement qui est extrêmement long. En fait, il dure près de 30 minutes, ce qui est pas commun dans une symphonie. Mmh. C'est un mouvement qui est moderato et qui avait, on entend une atmosphère un peu de désolation. Il utilise beaucoup de cordes graves, des longs développements mélodiques pour peindre un peu un tableau de peur et de solitude.
Ok, j'imaginais pas tout ça derrière, en termes de symbolique et d'historique, derrière une pièce de symphonie en tout cas. Alors là, on s'apprête à entendre un nouvel extrait, toujours de cette symphonie numéro 10, en mi mineur de Dmitri Shostakovitch. Qu'est-ce qu'on entend là, Noémie ?
Alors, le deuxième mouvement de la symphonie, c'est un allegro qui est un des plus courts et les plus terrifiants du répertoire symphonique. Alors, pour le coup, le premier mouvement est très long, le second est très court. Souvent, il est perçu un peu comme un portrait acide de Staline. C'est un scherzo. Un scherzo, c'est un terme musical. Court, brutal, implacable. Et ça commence un peu doucement. Après, il y a une espèce de course folle assez sauvage.
Ok. Alors j'ai un petit souci sur la musique d'après parce que je devais mettre un extrait, un passage qui n'est évidemment pas prêt. Est-ce que tu peux nous en parler pendant que je le prépare ?
Pas de souci. Donc le troisième mouvement, c'est un allegretto et il introduit un motif. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer clairement. Le motif DSCH.
Donc en fait, c'est un rappeur, ça, non ?
Ouais, on pourrait croire. Hein. En fait, c'est les initiales de Dmitri Shostakovich. DSCH, c'est un acronyme.
Un peu mégalo, non ?
Un peu, oui. C'est une signature qu'il met dans beaucoup de ses œuvres et qu'on retrouve énormément dans ce mouvement et dans le quatrième également. Donc on l'entend un petit peu en arrière-plan. Et en fait, il reprend la notation des notes allemandes. Il faut savoir qu'en allemand, on n'a pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on a A, B, C, D, E.
Ah.
Et donc Do, D, c'est Ré, S, c'est Mi bémol, C, c'est Do et H, c'est Si. Donc c'est un mouvement de notes comme ça qui fait une signature, celle de Dmitri Shostakovich. Et donc ça, voilà, on le retrouve un petit peu tout le temps au cours de ce mouvement. Et c'est un peu comme s'il affirmait son identité face à l'oppression, toujours dans cette symbolique.
Ok. Alors je vais préparer le prochain extrait, je m'en excuse aussi, je vais... Hop, mais ça va arriver. Qu'est-ce qu'on va entendre ensuite, Noémie ?
Eh bien, on va entendre le quatrième mouvement, le final, Andante Allegro, qui est dans une forme, pour le coup, un peu plus classique, parce que même si Staline est mort, il y a quand même encore pas mal de censure en URSS, donc il y a des choses dont on ne peut pas se défaire, et il faut apporter une conclusion heureuse au morceau et triomphale, sinon ça ne va pas être accepté. Donc c'est l'objet de ce quatrième mouvement, qui commence un peu par une méditation lente avant que ça se lance dans une grande course joyeuse. Et on peut encore entendre un petit peu le motif DSCH à plusieurs
bien,
endroits.
Nous allons écouter cette Andante Allegro sur Radio Classique, Radio Phoenix.
C'est cette fameuse méditation lente de début.
Je me sentais plutôt en harmonie là. Ouais. Beaucoup d'émotions provoquées par ce répertoire. Moi, j'ai une question pour Roméo.
Encore.
Quand t'entends ce genre de musique, ça te fait penser à quoi ?
Moi, là, ça m'évoque le lac des cygnes. Black Swan.
Le Tchaïkovski.
Le film.
Oui, mais du coup...
Avec Nathalie Portman, du coup.
Avec Nathalie Portman.
Ouais. Ok, mais du coup, on est aussi sur un compositeur russe.
Oui. Tout à fait. C'est un ballet, le lac des cygnes, à l'origine.
Et ça... te donne envie
de danser. Non, c'est sympa.
Ça doit être impressionnant d'entendre ça donc dans le grand théâtre du Phénix.
Tout à fait, surtout que c'est une œuvre que là on est sur le début qui est assez doux mais après ça envoie pas mal. Donc c'est une œuvre assez impressionnante et intense à entendre. Et faut savoir que le chef hein, Joshua Wallerstein, il est assez spécialiste de ce type de musique aussi. Donc c'est une assez grande chance d'avoir
Et du coup, quand on va entendre ça, Zoé, on sera combien de personnes réunies dans ce grand théâtre ?
En termes de public ou de musiciens ?
Les deux.
Oula, je pense qu'on sera à peu près au bas mot 800 personnes.
Et généralement, au plateau, il y a combien de personnes pour un répertoire comme ça ?
Sur un répertoire comme ça, on est autour de 80 personnes.
Au plateau ?
Ouais.
Plus des équipes techniques ?
En plus,
c'est impressionnant.
C'est un orchestre symphonique.
C'est quand même un moment majestueux et donc Si on veut pas rentrer dans les clichés, c'est pas que pour les vieux, la musique classique, ça peut carrément être quelque chose à voir, même si on a 20 ans.
Ah, je pense que c'est spectaculaire.
Ouais, ouais. Qu'on veut des émotions fortes.
Non, mais complètement.
Sur cette soirée, du coup, organisée toujours avec l'Orchestre National de Lille, on va avoir un autre répertoire. Tu veux nous en parler d'abord ou je le fais d'abord écouter, Noémie?
Eh ben, je vais vous en parler un petit peu et puis comme ça, on okay. l'écoute. On l'écoute. Du coup, c'est la Fiddle Fantasy de, donc, je vais le redire, hein, Bendix Balgay, qui a été composée en 2016. Donc là, on fait un bond dans le temps.
Ah oui.
On est sur une œuvre carrément contemporaine.
Staline était déjà mort.
Ah oui, il était bien, bien mort.
Ouais.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc Noah Bendix Balgay, il sera là sur scène parce que c'est le violoniste solo de la soirée qui va venir jouer sa propre composition.
Pourquoi pas?
Ça, c'est assez rare. C'est ouais. assez exceptionnel, je dirais. La Fiddle Fantasy, c'est une œuvre du coup pour violon klezmer. Alors, le klezmer, c'est une tradition musicale juive qui est souvent associée d'ailleurs au yiddish, qui est une langue qui est en fait d'origine germanique, mais qui a un apport de vocabulaire aussi hébreu. Et ça se caractérise par des mélodies assez vocales et expressives, souvent aussi avec pas mal d'humour et de passion.
Okay.
Et donc ici, Fiddle Fantasy, Fiddle en yiddish, ça veut dire violon. Donc c'est pour ça, c'est une fantaisie pour violon en fait.
Pas qu'en yiddish, du coup. Fiddle.
Fiddle, bah, ça veut dire violon, oui, du coup.
Ouais, enfin dans plein de langues.
Dans plein de langues, mais notamment ouais. en yiddish.
Dans quelle langue, Tanguy, tu as l'air d'être connaisseur?
Bah au moins en anglais.
Bon, après, c'est violine aussi, mais
ouais.
on peut le dire les deux. Et du coup, on est dans une ambiance complètement différente hein, avec cette pièce-là. C'est vraiment une explosion de vie c'est vraiment un jeu avec l'orchestre. L'orchestre, il n'est pas juste là pour accompagner le violoniste, okay. d'où aussi le titre « Jeu d'amis ». C'est vraiment un peu des jeux amicaux entre le soliste et l'orchestre. C'est très festif, c'est assez virtuose. Et voilà, c'est vraiment un mélange entre joie et nostalgie. Mais le mieux, c'est du coup d'en écouter un petit extrait.
Eh bien, c'est parti pour la festivité et le virtuose. Ah, ça s'arrête d'un coup. Bon, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'image en plus, parce que du coup, autour de ce plateau, ça dansait presque sur ces mélodies klezmer. Et alors, c'est marrant, parce que du coup, vous ne l'avez pas vu, mais moi, j'ai la vidéo en face pendant la musique qui jouait, et le premier violon, effectivement, on a l'impression qu'il danse même, et on retrouve des rythmes qui pourraient faire penser au klezmer, qui est aussi une danse. Pratiquer, donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus festif pour cette soirée avec l'Orchestre National de Lille. Les réactions?
J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu, cette musique.
Ah, peut-être. Ah. C'est assez récent, mais après, la musique klezmer, on retrouve aussi, c'est assez commun et il y a une sonorité, une langue musicale qu'on retrouve à plein.
Ça vient sûrement de là.
Et notamment en Europe de l'Est, ouais.
Ouais, tout à fait. Puis il faut quand même souligner que Noah Bendix Bagley, c'est pas n'importe qui, c'est non seulement le compositeur de l'œuvre, et il est aussi violon solo à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Donc on est quand même sur un grand violoniste qu'on peut découvrir sur scène.
Ok, une soirée exceptionnelle donc en prévision. Qui peut nous partager les dates?
Si vous voulez, je le fais. C'est le vendredi 16 janvier à 20h. On vous propose un petit échauffement de spectateurs avant le spectacle, si vous voulez des clés d'écoute un peu plus approfondies encore sur les œuvres. Et c'est à partir de 10 ans, et j'anticipe la question, mais oui, il y a une halte garderie sur ce spectacle.
Ah.
Donc vous pouvez faire garder vos enfants si vous en avez.
Et gratuitement.
Gratuitement.
Gratuitement. Et alors, je vois aussi qu'il y a des petits pictos. Il y a une oreille, il y a un œil. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça veut dire que ce spectacle, il est naturellement accessible aux personnes qui seraient malvoyantes ou aveugles, puisqu'on ouais. peut écouter la musique. Et ça veut dire aussi qu'on a une boucle magnétique. Donc, c'est un système de renfort sonore pour les personnes qui seraient malentendantes, pour leur permettre de pouvoir apprécier le concert malgré tout.
Super. Et ben franchement, on a hâte de vivre cette soirée du 16 janvier. Je crois pouvoir dire qu'en tout cas, les soirées de l'ONL au Phoenix sont très souvent complètes, donc il ne faut pas tarder à prendre sa place parce que ce sera une soirée exceptionnelle. Merci encore Noémie de nous avoir parlé de cette soirée et nous allons approcher de la fin de cette émission.
Le Phoenix.
Alors, on a une invitée spéciale pour cette fin d'émission, c'est Zoé. Zoé, rebonjour.
Rebonjour Tanguy.
Alors, on a envie à chaque fin d'émission d'inviter une personne proche de l'équipe qui peut venir nous partager quelque chose d'un peu insolite qu'on ne pourrait pas supposer forcément au premier abord sur un théâtre. Et en préparant cette émission, Zoé, tu nous as appris qu'il y avait des mots qu'on ne pouvait pas dire.
Alors oui, moi ce dont je vais vous parler, c'est des petites manies, des habitudes ou des superstitions.
Ah, pas que des mots du coup.
Pas forcément. Là, ce sera que des mots, mais en fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient malvenues au théâtre, liées à des superstitions, à des choses. Souvent, c'était il y a longtemps et on a gardé ces superstitions-là et donc du coup, on évite de dire, de porter ou de faire ces choses-là quand on est dans un théâtre.
Un peu comme le fait qu'on a toujours une servante, comme nous l'a expliqué Noémie en début d'émission.
Oui.
Une servante qui reste allumée pour le coup.
Complètement. Voilà, alors je vais commencer et j'avoue, j'ai un peu une suée froide parce que je vais devoir dire ces mots qui sont interdits. Et
On peut pas éviter de les dire.
Je vais essayer. Voilà, alors le premier mot interdit, donc c'est le mot, mais je vais le dire très doucement, comme ça ça va rester entre nous. C'est le mot « corde ». Voilà,
oui.
Je fais. Alors ce mot, c'est pas seulement un tabou au théâtre, il est aussi sur des bateaux. Et en fait, c'est pas un hasard que ce mot soit un tabou sur ces deux endroits-là, parce que le théâtre autrefois, on avait besoin de monter assez haut pour pouvoir installer des voiles peintes, qui étaient des décors de l'époque. Et à cette époque-là, qui était mieux placé que des marins pour accrocher des voiles? Et ils maniaient déjà ça parfaitement sur mer. Alors sur terre, c'était d'autant plus j'ai dit l'inverse, non. Ils maniaient ça parfaitement sur mer, et sur terre, c'était très simple.
Ouais.
Mais donc, du coup, quand ils sont arrivés dans les théâtres, ils sont venus aussi avec toutes leurs superstitions. Et pour un marin, le mot « corde » évoquait immédiatement la pendaison, ce qui était quand même un mauvais présage garanti. Donc, résultat, au théâtre, on utilise plutôt des mots comme « drisse » et « lingue », des termes qui sont d'ailleurs empruntés à la navigation, ou alors « chanvre », qui désigne la matière qui est composée, ces mots interdits. Le deuxième mot qu'on évite soigneusement, c'est ce petit rongeur à grandes oreilles, deux petites incisives et qui est fan de carottes. Oui, c'est le lapin. Et là encore, l'origine remonte aux marins, parce que les lapins embarqués comme provisions s'échappaient de leur cage et rongeaient parfois les cordages, enfin pardon, les drisses des navires. Et du coup, on imagine un peu le problème. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé d'autres explications aussi, qu'on peut accumuler aussi. Au XVIIIe siècle, certains metteurs en scène offraient parfois des peaux de lapin aux costumières comme paiement. Le résultat, quand il y avait du lapin dans l'air, c'était souvent que c'était synonyme de misère, de salaire impayé, de production bancale. Donc voilà, pas forcément très très positif. Et il y a bien sûr l'expression poser un lapin.
Ah oui.
On ne souhaiterait absolument pas que le public nous pose un lapin.
Ça ne fait jamais plaisir, non?
Pour une création. Et d'ailleurs, ça m'amène à ce dernier mot qu'on dit. On dit merde et pas bonne chance.
Voilà. Ah ouais?
Et
c'est pas très poli?
Non, c'est pas très poli, mais en fait, ça vient du moment où on venait au théâtre en calèche, tiré par des chevaux. Et le fait de plus qu'il y ait de crottins devant le théâtre signifiait qu'il y avait que la salle était pleine. Donc c'était un bon augure, un bon présage. Et donc du coup, souhaiter merde, ça voulait dire succès. Donc voilà.
Mais du coup, quand on dit merde, qu'est-ce qu'on peut répondre ou ne pas répondre?
Eh ben ça, je l'ai appris tout à l'heure, je le savais pas.
Ah ouais?
Non.
Parce que, alors du coup, je peux, en tout cas, moi, j'ai appris depuis toujours qu'effectivement, quand on te dit merde, il y a un mot qu'il ne faut surtout pas répondre, c'est merci.
Merci, il faut dire je prends.
Tout à fait. Bon, bah, c'est super, on apprend tous des choses autour de cette émission. Bah, merci beaucoup, Zoé, c'était super.
J'espère juste me casser la figure en descendant les escaliers après pour avoir répété tous ces mots interdits.
Malédiction.
Tu vas vite sortir du phénix pour. Voilà, ça y est, des objets commencent à tomber autour de nous. On est foutus. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup, Roméo. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir partagé cette heure avec nous. Donc, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission, et je vous propose de se quitter du coup pour le plus grand plaisir de Roméo sur un Nick Cave, donc Abattoir Blues, qui est sorti sur un album en 2004 de Nick Cave. Merci beaucoup et au mois prochain.
Is high up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear? The air grows heavy. Listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Slide on over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel free? Everything's dissolving, babe, but just a code into play. Skies on fire, the dead are heaped across the lane.
Oh yeah, yeah.
I went to bed last night and my Morocco got jammed.
Oh yeah, yeah.
I woke up this morning with a frappuccino in my hand. My heart it tumbled like stock exchange. Do you feel what I feel, dear? Mass extinction, dog. Hypocrisy. These things are not good for me. Do you see what I see, dear? A line that God throws down to pleasing geometry. Shall we leave this place now, dear? Is there some way out of here? Wait with
the sparrows in a hurry after work. The need for validation, babe, gone completely berserk. I wanna be a superman, but I turned into such a jerk. I got the abattoir blues. I got the abattoir blues. I got the abattoir blues. Right down the